Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous le colloque qui va servir de conclusion aux différents mois de séminaires que nous avons partagés ensemble, sur lesquels nous avons réfléchi à un certain nombre de solutions dans le domaine de la transition écologique. Donc le sujet d'aujourd'hui est un petit peu finalement le bilan de tout ce que nous avons partagé à travers une approche interdisciplinaire qui va aller très loin aujourd'hui, du milieu du vivant jusqu'à des modèles économiques qui en dérivent et qui ont été inspirés de ce vivant. Il n'a échappé à personne, en fait, que nous fonctionnons selon un modèle économique dit linéaire que l'on pourrait résumer de façon un petit peu schématique de la façon suivante. J'extrais les matières premières pour mes besoins quotidiens et donc je dégrade l'environnement au passage. Je transforme ces matières premières et je dégrade à nouveau l'environnement lors de ces transformations. Je consomme ces matières premières, puis je jette et donc je dégrade à nouveau l'environnement et puis je recommence, j'extrais et ainsi de suite. D'ailleurs, les PFAS dont on parle beaucoup aujourd'hui, les microplastiques, les éléments métalliques que l'on oublie parfois, les pesticides ou les résidus pharmaceutiques illustrent l'échec structurel de ce mode d'économie linéaire, puisqu'il se traduit par une production massive qui épuise la base du modèle linéaire, c'est-à-dire les matières premières, ses ressources initiales. Il diffuse dans l'environnement un certain nombre de composés indésirables. Et puis, il se traduit par des coûts de dépollution gigantesques quand nous avons les solutions de dépollution, avec une réalité qu'il faut bien admettre, une quasi-impossibilité de retour à l'initial. Et ceci avec des conséquences sanitaires et humaines, difficilement acceptables. D'ailleurs, les polluants dits éternels, ou le cadmium des engrais phosphatés, ou les insecticides polychlorés, montrent particulièrement qu'un produit peut être économiquement rentable pendant quelques années tout en créant une dette écologique multigénérationnelle. Et si certains n'ont pas le courage d'admettre ce constat, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les crises géopolitiques et géoéconomiques créent une dépendance aux chaînes mondialisées, une fragilisation logistique qui se perçoit bien actuellement, et une concentration des ressources critiques dans certains pays qui induisent nécessairement une compétition croissante pour avoir accès à ses propres ressources. Donc, en quelques mots, l'économie linéaire crée une dépendance stratégique permanente à l'extraction primaire. C'est d'ailleurs le paradoxe actuel de la transition énergétique qui elle-même accroît cette pression extractive. C'est ce que nous avons abordé lors du second séminaire avec la participation de Guillaume Pitron. Pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, quelques exemples familiers illustrent bien ce paradoxe, qu'il s'agisse des batteries, des réseaux électriques, du photovoltaïque, de l'électronique, de la chimie ou des centres de données. Il est clair donc aujourd'hui, l'économie circulaire n'est plus seulement une posture environnementale, elle devient une stratégie de souveraineté, une stratégie de résilience industrielle, une réponse à la volatilité des ressources, une réduction du risque géopolitique et une limitation des coûts futurs de dépollution et problèmes de santé associés. Sortir d'un modèle économique linéaire est donc aussi une nécessité industrielle, écologique, stratégique, mais bien sûr, n'oublions pas, écologique, car tous ces problèmes sont étroitement interconnectés. Alors, ce colloque est l'occasion de partager l'existence d'alternatives en émergence qui sont conçues sur le long terme. Et à ce titre, le vivant est très inspirant, car il est source d'innovation constante, de ressources qu'il renouvelle, qu'il régénère, il évolue, s'adapte, interagit, optimise et coopère. Oui, l'évolution a produit des systèmes coopératifs extrêmement efficaces et structurants pour la biosphère. Nous allons aujourd'hui redécouvrir la coopération à toutes les échelles de la vie et voir comment la coopération biologique, les symbioses, l'entraide et la résilience peuvent inspirer des modèles économiques de type symbiotique, régénératif, en d'autres termes, durable. Donc, tel est le programme d'aujourd'hui. Je commencerai tout d'abord par expliquer comment certaines bactéries et plantes ont réussi à coopérer pour se nourrir durablement en adoptant des solutions originales, sophistiquées et co-construites qui n'ont pas d'équivalent. L'exemple choisi est impressionnant. Il est celui d'une symbiose établie en milieu hautement pollué entre une bactérie et une légumineuse hyper-accumulatrice de zinc. Il s'agit d'une démonstration biologique que le vivant n'est pas une collection d'individus autonomes, indépendants, mais un réseau de coopération régulé. Et d'ailleurs, nous le verrons, les tricheurs n'y ont pas leur place. Il s'agit d'une belle remise en cause de notre individualisme. Marc-André Sellos, présent ici, prendra ensuite la parole pour partager la longue histoire de la symbiose mycorhize-plante. Il s'agit d'une démonstration illustrant que les plantes terrestres primitives ne se sont pas adaptées seules. Elles se sont adaptées avec des partenaires, les mycorhizes. Ainsi, la sélection naturelle favorise des organismes capables de coopérer, d'entrer dans des réseaux stables d'échange. Ensuite, nous écouterons Isabelle Delannoy, qui nous parlera de l'économie symbiotique, car effectivement, le vivant et les symbioses naturelles deviennent des modèles d'organisation possibles au niveau économique. Ainsi, l'intelligence collective, la santé et l'utilité des écosystèmes et la réduction des activités extractives conduisent à un bénéfice mutuel. Ce mode de fonctionnement s'impose aujourd'hui comme un modèle économique capable de combiner positivement activité économique et écologique. Ce modèle s'inscrit dans un champ plus large de l'économie industrielle et de l'économie circulaire, mais plus globalement dans celui du développement durable que nous exposera Sébastien Treyer. Il nous démontrera comment la coopération internationale est la seule issue stable et durable de fonctionnement. Voilà donc le programme de la journée. Commençons par le premier axe, celui de cette symbiose, donc bactérie-plante, assez exceptionnelle. Quand on y réfléchit, on peut regretter une phrase très générale. Effectivement, quel dommage que nos plantes cultivées ne puissent se nourrir du seul diazote présent dans l'air, qui représente quand même 78% de la composition chimique de l'air. Ceci nous éviterait quelques soucis quand on voit que les engrais azotés ne passent plus le détroit d'Hormuz. Comment produit-on les engrais azotés? Eh bien, vous le savez peut-être, d'un point de vue chimique, le diazote est une molécule extrêmement stable. On l'appelle gaz inerte. Lavoisier disait même un gaz sans vie. Effectivement, molécule très stable, et il faut des conditions drastiques pour le réduire. Un vieux procédé chimique qui a toujours lieu, qui est toujours développé, s'appelle le procédé Haber-Bosch. Et il repose sur cette réaction. Le diazote est réduit par du dihydrogène pour former l'ammoniac, matière première de ces engrais azotés. On voit donc déjà qu'il faut donc produire du dihydrogène pour être capable de faire cette réduction. Et là, la situation se complique encore. Pour préparer ce dihydrogène, eh bien, il faut donc utiliser du méthane, le méthane qui est donc présent dans les gaz naturels. C'est une réaction elle-même difficile, qui produit d'ailleurs au passage du dioxyde de carbone. Ainsi, il est très clair que toute perturbation du marché gazier, eh bien, va se répercuter directement sur le prix des engrais azotés. Pourquoi ? Parce qu'il est établi que 60 à 80% du coût de production de l'ammoniac est en fait celui qui est attribuable au gaz naturel. Or, eh bien, vous le savez certainement, les États du Golfe, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou l'Iran, sont des exportateurs majeurs de gaz et d'ammoniac. Et donc, le blocage de ce fameux détroit d'Hormuz devrait nous aider à prendre du recul. Est-ce que la nature n'aurait pas la solution ? Souvenez-vous du séminaire où nous avons invité les lycéens de Laon, où la conclusion de ce séminaire était très claire. Eh bien, la nature est à l'évidence la plus grande chimiste. Voyons comment la nature a résolu en fait ce problème. Certaines bactéries du sol ont acquis des mécanismes leur permettant de réduire ce fameux diazote en ammoniac, mais à une condition: collaborer avec une espèce végétale spécifique, travailler en symbiose. Nous allons voir l'exemple absolument spectaculaire d'un écotype d'une légumineuse, schématisée ici, Antilis vulneraria, qui vit en symbiose avec une bactérie du sol, une espèce végétale nouvelle, Rhizobium metallidurans. Nouvelle, pourquoi ? Eh bien parce que cette symbiose s'est établie dans un sol hautement contaminé. C'est un ancien bassin de décantation minière où on entreposait, on l'avait minerai. Aujourd'hui, ceci se traduit par des concentrations en zinc, cadmium et plomb 500 à 800 fois supérieures à ce que les normes européennes tolèrent. C'est donc déjà un premier exploit qu'une espèce végétale arrive à survivre alors que toutes les autres ont disparu et que la diversité bactérienne est extrêmement réduite. Ce qui a fait émerger cette nouvelle espèce végétale qui a réussi à tolérer donc cette pollution extrême. Ainsi, la légumineuse Antilis vulneraria héberge dans ses tissus racinaires Rhizobium metallidurans qui va réussir à réduire le diazote de l'air en ammoniac. La légumineuse va profiter du travail de la bactérie, mais cette bactérie va elle trouver protection et compensation du côté de la plante en bénéficiant de substrats carbonés énergétiques issus de la photosynthèse. Voyageons quelques instants à l'autre bout du monde pour aller en Nouvelle-Calédonie, se retrouver là aussi en terre minière, où nous déployons actuellement des efforts de restauration écologique de ces milieux. On peut y retrouver aussi le rôle fondamental d'espèces fixatrices d'azote. Vous en avez partagé quelques photos, les plus spectaculaires. Ici, Gymnostoma intermedium, Cerianthes calicina, Ostorchella pancheri, qui arrive elle aussi à tolérer des concentrations inhabituelles en éléments toxiques et donc aussi phytotoxiques, nickel, manganèse, chrome, cobalt, qui pourtant donc arrivent à survivre, mais arrivent à enrichir ces sols en azote et qui sont devenus indispensables pour permettre l'introduction d'espèces plus fragiles. Donc permettre tout simplement de se développer dans ce milieu hostile. D'un point de vue global, cette production d'azote par ces espèces fixatrices d'azote n'est pas anecdotique. Selon le biochimiste Jean Pelmont, que vous connaissez peut-être, de Grenoble, cette fixation symbiotique apporterait la moitié de ce qu'apportent les engrais industriels. C'est donc à réfléchir. Mais ce n'est pas tout. Puisque le diazote est très stable, voyons comment les différentes technologies chimiques ou naturelles ont résolu ce problème pour vaincre cette stabilité de cette fameuse molécule de diazote. En chimie, le procédé Haber-Bosch, qui a toujours lieu, nécessite une température de 450 degrés, 150 atmosphères, des conditions extrêmes, et avec l'aide d'un catalyseur, couramment le fer, exceptionnellement le ruthénium, vu son prix et ses difficultés d'accès. C'est donc une réaction extrêmement dure qui est nécessaire pour vaincre la stabilité de ce gaz. La conséquence est imparable, il est très énergivore et on considère qu'il est environ responsable de 2% du dégagement mondial de gaz carbonique. Alors que les mécanismes des organismes dits diazotrophes, qui sont capables de le faire, le font à température ambiante, à pression normale. Elles ont aussi leur catalyseur, une protéine qui s'appelle la nitrogénase. Les bactéries les plus connues qui sont dotées de cette nitrogénase sont les rhizobia. Alors on pourrait croire que la réduction du diazote en ammoniac en fait consomme 6 électrons. En fait, il n'en est rien, c'est plus complexe que ça. Quand on fait le bilan de la réaction, on voit qu'il consomme au moins 8 électrons. Pourquoi ? Parce que cette réduction est le cumul de deux réactions. La réduction de l'azote, bien sûr, mais également la réduction des protons en dihydrogène. On voit une différence fondamentale. Alors que le procédé chimique consomme du dihydrogène, le procédé biologique génère du dihydrogène. Mais alors pourquoi ? On peut se le demander. Certains chimistes pourraient se dire « Oh, quelle importance ! Le dihydrogène est un gaz très volatile qui peut s'échapper. Ça ne sert à rien. » Bon, la nature ne fait jamais rien au hasard et pour rien, elle ne dépense pas l'énergie pour une réaction qui pourrait être inutile. Nous allons voir qu'il est extrêmement précieux. Alors à quoi peut-il servir ? Eh bien, le travail de la nitrogénase que vous voyez ici, donc sous forme d'une modélisation moléculaire, eh bien, nécessite un pouvoir réducteur fort. On l'a dit, c'est une réaction difficile. Le potentiel réducteur nécessaire est évalué à moins 0,43 volts, ce qui est très proche du pouvoir réducteur du cadmium métal ou du cuivre métallique que vous connaissez peut-être mieux. Et vous le savez, si ce cuivre métallique est à l'air, eh bien, il va être oxydé par l'oxygène de l'air, qui va passiver le cuivre et on passe son temps à nettoyer le cuivre derrière. Eh bien, la nitrogénase craint aussi, pour les mêmes raisons, ce fameux dioxygène. Donc voilà, alors la solution est astucieuse. Pour que la nitrogénase soit protégée de ce dioxygène, eh bien, le dihydrogène produit va apporter la solution. Il va nettoyer l'environnement de la nitrogénase de toute molécule de dioxygène. Première astuce. Cette symbiose est absolument magnifique, elle n'est pas qu'un simple échange de nutriments. Ce n'est pas du donnant-donnant où la bactérie donnerait ses substrats azotés assimilables, la glutamine, et donc la légumineuse, ses substrats carbonés, généralement des acides carboxyliques. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est une véritable symbiose, c'est-à-dire qu'elle va résulter d'une adaptation physiologique profonde de chaque partenaire et d'un dialogue élaboré entre eux. Je vous en donnais quelques exemples précis, au moins ce qui va initier ce procédé. Tout d'abord, eh bien, la légumineuse va émettre ce qu'on appelle des flavonoïdes de structure très spécifique. C'est un petit peu comme l'odeur d'Antilis vulneraria, de façon à attirer les bactéries qui lui semblent les plus efficaces, attirer notamment notre bactérie Rhizobium metallidurans. C'est une relation spécifique. Seul Rhizobium metallidurans arrive à détecter ces flavonoïdes émis par la légumineuse. La légumineuse va ensuite répondre en émettant à son tour des tétrasaccharides très particuliers, très spécifiques aussi, qui vont être reconnus par des récepteurs qui sont à la surface des racines qu'on appelle des lectines. La plante va répondre ou non selon en fait la reconnaissance chimique ou pas. Si la reconnaissance a lieu, c'est un signal fort qui va être donc transmis par les lectines à la légumineuse et qui va déclencher une cascade d'événements dans la cellule végétale, dont l'expression des facteurs NOD, qui va permettre, par exemple, une modification de la paroi en fait, des racines, permettant alors la pénétration des bactéries, sa déformation pour aller former un nouvel organe, ces nodosités racinaires qui vont abriter la bactérie. Vous en voyez ici une photo. On voit donc les bactéries qui ont grossi, qui sont devenues ce qu'on appelle des bactéroïdes, donc qui ont pénétré à l'intérieur de la cellule végétale. Bon, c'est un exemple un petit peu différent, celui de la luzerne, une légumineuse bien connue, qui subit donc le même phénomène. Donc tout ceci va aussi se traduire par une perturbation donc métabolique des bactéroïdes et notamment l'apparition de cette fameuse nitrogénase. Vous en voyez un petit peu le détail ici. En retour, la cellule végétale va fabriquer un certain nombre de protéines, dont par exemple la l'hémoglobine, qui est très proche de notre hémoglobine. Elle aussi va retenir l'oxygène, à nouveau pour protéger la nitrogénase, mais livrer au compte-gouttes l'oxygène qui va être nécessaire pour assurer l'approvisionnement respiratoire des bactéroïdes. La plante peut encore aller plus loin. Elle peut collaborer à la synthèse de l'HEM si elle est déficiente chez les bactéroïdes. Elle va alimenter les bactéroïdes en des nutriments très spécifiques qu'on appelle les rhizopines, donc des sucres très particuliers. avec un objectif, c'est de la nourrir en métabolites secondaires dont elle a besoin et orienter les fonctions du bactéroïde en convertisseur d'énergie et d'azote. On voit donc que la plante investit massivement dans le métabolisme bactérien. Elle a donc intérêt à sélectionner les bactéries les plus efficaces et exclure les tricheurs peu fixateurs d'azote. D'où cette reconnaissance très spécifique. Mais les bactéries assument, elles aussi, un travail complexe et difficile. Pour réduire le diazote en ammoniac et le transformer en azote assimilable, donc qu'on appelle les glutamines, eh bien, la facture énergétique est exorbitante. Elle est évaluée à plus de 16 molécules d'ATP, ce qui est absolument extraordinaire. Alors, on peut demander comment elles le font, comment elles y parviennent. Souvenez-vous, Rhizobium metalledurans doit assumer une dépense d'énergie considérable alors qu'elle doit en même temps survivre dans un milieu complètement hostile, puisque pollué, où les nutriments carbonés, phosphatés, élémentaires sont très pauvres, très peu abondants et donc difficilement absorbables. Eh bien, nous avons montré que notre bactérie, associée à la légumineuse Antilis vulneraria, avait trouvé une astuce cachée. Plutôt que de dégrader le glucose par la voie traditionnelle de la glycolyse, elle utilise une voie ancestrale qui est la voie d'Ettner-Dudorov non phosphorylante. C'est extrêmement intéressant, vous allez voir les avantages qui sont très adaptés à cette situation. Tout d'abord, elle va faire une transformation du glucose, non pas par une réaction de phosphorylation, pour former le glucose 6-phosphate, il y a très peu de phosphore dans le sol et dans le milieu ambiant. Elle va l'oxyder rapidement en gluconate, puis après en KDG, un acide ulosonique très rare, qu'on rencontre très peu et que la plupart des bactéries ne savent absolument pas assimiler. Elle va donc se l'approprier quasiment seule, ce qui est évidemment très intéressant dans un milieu pauvre. Autre avantage, on voit que la transformation du glucose en pyruvate nécessite peu d'étapes, beaucoup moins que la glycolyse, dont vous voyez ici toutes les étapes intermédiaires. Cela signifie quoi? Moins d'étapes nécessaires, donc moins d'enzymes nécessaires. Donc c'est un gain en protéines, un coût protéique réduit, très intéressant. On constate que la glycolyse fournit de l'ATP, ce qui est évidemment une source énergétique essentielle. On peut difficilement comprendre pourquoi la voie d'Ettner-Dudorov, qui fournit moins d'ATP, est plus intéressante. Eh bien si, quand on regarde, elle produit du NADPH. Le NADPH, on y reviendra tout à l'heure, c'est un réducteur de la nature qui est extrêmement puissant et qui va être très utile. N'oublions pas que cette bactérie vit dans un milieu stressant, le stress de la pollution, qui va induire chez elle un stress oxydant. Et elle aura besoin de NADPH pour induire des substrats utiles antioxydants tels que le glutathion ou la thiorhodoxine. Donc, cette voie est utile pour favoriser la survie dans un sol carencé en phosphore, carencé en nutriments carbonés, la survie de cette bactérie. Donc on peut dire que Rhizobium metalledurans a vraiment vaincu ces difficultés essentielles dans un tel milieu où il n'y a ni glucose ni phosphore. Donc la nature, on le voit à travers cet exemple, va fonctionner davantage comme un réseau d'interactions bien illustré entre ces deux entités, qui ne sont pas une juxtaposition d'entités isolées, mais au contraire, dans ce milieu, cette situation particulièrement difficile, il s'agit d'un partenariat extrêmement dynamique, régulé, où la coopération est devenue une stratégie d'adaptation vitale qui a permis d'augmenter la résilience de chacun des deux partenaires, Rhizobium metalledurans et Antilis vulneraria. La conclusion n'est pas que philosophique, elle est très pragmatique aussi. Et la découverte donc, de ce mécanisme développé par les deux partenaires nous a permis de résoudre le problème de la restauration écologique de ce site très pollué. En essayant de synthétiser le KDG, ce qui n'est pas si simple compte tenu de la structure très particulière de ce sucre et peu connu, puis à montrer que cette bactérie avait bien métabolisé ce KDG, puisqu'elle a été développée en milieu de culture enrichi en KDG, ce qui a favorisé sa croissance. Or, il y a une symbiose entre cette bactérie et la légumineuse, ce qui se montre bien ici. Si l'on cultive Antilisunera aria seule, en nourrissant simplement glucose, la croissance est lente et difficile. En revanche, en inoculant donc les semences Antilisunera aria avec une bactérie nourrie au KDG, on voit un développement facilité de la légumineuse. Donc la mise en évidence de cette belle symbiose nous a permis tout simplement d'initier la restauration écologique de ce bassin minier hautement contaminé où il n'y avait plus aucune végétation, en introduisant donc Antilus veneraria et une autre plante adaptée à ce site, une brassicacée, Nokia cerulescens, qui est connue comme étant un des meilleurs hyperaccumulateurs de zinc. Au bout de 2 ans, ces espèces s'auto-reproduisaient elles-mêmes et ont laissé place successivement donc à des espèces végétales plus communes, tolérantes à ces milieux, et la nature a repris ses droits. Donc on voit toute la force introduite par en fait cette symbiose bactérie-légumineuse. Donc l'initiation de la restauration écologique de ce site avec ce duo peut être qualifiée de solution fondée sur la nature. Et vous vous souvenez peut-être du séminaire qui a été consacré au sujet avec Martine Ossard, présente ici aussi. On avait bien redéfini la définition des solutions fondées sur la nature, officiellement décrite par la Commission européenne. Ce sont bien sûr des solutions qui s'appuient sur le fonctionnement de la nature, qui apportent un bénéfice à la biodiversité et bien sûr à l'environnement, mais pas que. Il est dit que ces solutions doivent avoir une dimension sociale et économique. Et la définition va très loin. Elle dit même qu'il faut que ces solutions soient rentables. Donc, en résumé, il faut que ces solutions soient économiquement viables. Ceci est un vrai sujet. Si on veut être cohérent avec les efforts écologiques initiaux, il faut que la dimension économique apportée n'ait pas d'empreinte environnementale. Eh bien, nous allons le voir, ceci a été apporté grâce au concept de l'éco-catalyse qui nous a permis de repenser la chimie, ce qu'on appelle la chimie d'un point de vue durable, qui s'appuie sur les piliers du développement durable. Une dimension écologique et économique, mais aussi donc, économique et sociétale. Donc c'est ce qu'on appelle l'éco-catalyse, hein, développée mardi dernier de façon très détaillée, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on en donnera quelques éléments rapides. Et comment est-ce possible? Sur quoi s'appuie l'éco-catalyse? Eh bien, ceci s'appuie sur quelque chose qu'on n'avait pas anticipé initialement. C'est qu'Antilis vulneraria est capable d'extraire, de transporter et de stocker le zinc du sol en des concentrations particulièrement élevées, donc dans les parties aériennes, en particulier dans les vacuoles des cellules végétales, à hauteur de 15% massique. C'est monstrueux, pour vous donner un ordre de grandeur, la brassicacée associée, qui est considérée comme un des meilleurs hyperaccumulateurs de zinc connus, arrive à en stocker 7%, qui constitue déjà un pourcentage extrêmement élevé. À titre de comparaison aussi, en Nouvelle-Calédonie, le plus grand hyperaccumulateur de nickel capable d'être introduit en restauration minière accumule 7% de nickel. La plante phare, décrite dans le séminaire sol, arrive à atteindre 6% de manganèse dans les parties aériennes. On considérait que c'était beaucoup. Et là, donc, nous sommes à 15% de zinc pour Antilis vulneraria, qui est absolument un record. Donc, l'idée a été de valoriser les litières de ces plantes qui sont hyper concentrées en zinc, qui sont à leur maximum de taux de zinc, pour les transformer en des outils chimiques où le zinc est utile comme catalyseur, donc comme accélérateur de réaction. Voilà, vous voyez ici donc très clairement qu'Antilus vulneraria donc accumule ce zinc avec donc une efficacité record. C'est vraiment la championne du domaine, supérieure à Nokia cerulescens et avec une meilleure sélectivité. Non seulement le taux de zinc est élevé, mais on a 10 fois moins de cadmium et la moitié de pourcentage en plomb. Ce qui est là aussi un résultat qui est assez sidérant d'un point de vue chimique. Alors, à quoi servit donc ce zinc issu des feuilles? Par des procédés très sobres et directs qui ont réussi à exclure tout procédé métallurgique. On a réussi donc à avoir ces fameux éco-catalyseurs, donc ces outils qui nous ont permis eh bien, de revisiter complètement la synthèse de molécules utiles pour notre santé, telles que la synthèse d'agents anticancéreux, de principes actifs contre des épilepsies pharmacorésistantes, des réactions de coiffage des ARN et ADN, particulièrement utiles dans le cas des vaccins ARN messagers, mais aussi la synthèse d'anxiolytiques anticonvulsivants. Donc des applications qui ont beaucoup de sens en tant que principe actif de l'industrie pharmaceutique. Mais pas que. Les applications vont au-delà. On a également réussi à synthétiser des molécules de défense bien identifiées dans les plantes, qui peuvent être très inspirantes dans la recherche d'agents de biocontrôle. Des réducteurs biomimétiques, souvenez-vous du NADPH tout à l'heure, on a réussi à faire l'analogue grâce à l'écozinc dérivé d'Antilis vulneraria. C'est important. Quand on veut repenser la chimie, réduire son empreinte environnementale, la meilleure stratégie est de s'inspirer des réactifs et catalyseurs du vivant, c'en est un exemple. Et puis enfin, de façon plus précise, la synthèse de matériaux conducteurs photoluminescents, mais cette fois-ci éco-responsables. En fait, cet exemple particulier donc, a été étendu dans le cadre d'une démarche plus globale à d'autres facteurs clés responsables de l'effondrement de la biodiversité. On a vu ici que la restauration écologique des sols par des plantes adaptées à ces milieux générait des outils en éco-catalyse, mais pas que. La volonté de contribuer à la dépollution de l'eau a permis aussi d'identifier des plantes aquatiques dont le système racinaire est extrêmement bien doté à l'échelle moléculaire, donc à l'échelle très fine de la chimie, pour séquestrer un très grand nombre de polluants, métalliques, voire organiques. On a montré lors du séminaire Espèces exotiques envahissantes que les plantes aquatiques exotiques envahissantes étaient souvent les plus performantes. D'ailleurs, on avait pu expliquer pourquoi elles étaient envahissantes. Ça n'est pas un hasard, ça se comprend d'un point de vue physiologique, en particulier par un système racinaire très bien fait. Donc une capacité à complexer de nombreux polluants. Et enfin, donc, dans le cadre des zones humides, on avait montré aussi que certaines espèces exotiques envahissantes, mais terrestres cette fois-ci, là aussi n'étaient pas envahissantes par hasard, et quand on réussissait à contrôler leur prolifération par des solutions très naturelles basées aussi sur leur physiologie, mais là encore, on récupérait des biomasses qui avaient un point commun avec les précédentes, une richesse en éléments minéraux absolument extraordinaire. L'ensemble de ces solutions naturelles a permis de se retrouver avec des poudres végétales ou des feuilles très chargées en éléments minéraux qui se retrouvent dans l'ensemble du tableau périodique. Donc finalement, une opportunité pour revisiter, repenser la chimie grâce à ces outils, en s'inscrivant bien sûr dans les principes très précis de la chimie verte ou ceux du développement durable. En axant ses efforts sur la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée, utiles pour notre santé ou notre bien-être. Revenons d'un point de vue global sur l'exemple de l'eau, qui est d'actualité et qui parle bien, en essayant de comparer la stratégie classique, qui conduit au catalyseur très utile en chimie, et à l'éco-catalyse, qui dérive de ces solutions écologiques pour résoudre les problèmes environnementaux. La catalyse classique pour construire nos molécules commence par l'extraction minière, avec un impact paysager notable, puisque quand on aura extrait le minerai, on aura tellement dégradé les sols que la végétation n'arrivera plus à reprendre. Donc il y a une perte de biodiversité énorme, et avec, ne l'oublions pas, la production de déchets en quantité importante. On avait déjà un petit peu parlé de ce problème. Dans les minerais les plus riches, on avait pris deux exemples, le minerai de nickel en Russie, lors du sujet palladium, si vous vous souvenez, ou celui de Nouvelle-Calédonie, on a des minerais très riches, 1,5% de nickel, c'est ce que ça veut dire. Donc on admet d'entrée, avant d'avoir commencé, qu'on va générer 98,5% de déchets. C'est comme ça qu'il faut avoir en tête. Ce sont les plus riches. Donc, génération de déchets dont on ne sait que faire. Bien sûr, si les sols sont complètement dégradés et qu'il n'y a plus de végétation, il y a une forte érosion des sols, avec deux conséquences, c'est-à-dire érosion éolienne des particules métalliques à chaque fois qu'il y a un épisode venteux, ou lessivage des sols à chaque fois qu'il y a un épisode pluvieux, qui va alors contaminer le milieu aquatique, c'est imparable. il y a un continuum de pollution entre les deux qui est très démonstratif sur le terrain. Donc on va polluer après les sols, les systèmes aquatiques. Mais ça n'est que la première étape, c'est l'extraction du minerai. Il va falloir ensuite transformer ce minerai pour en faire un catalyseur. Et là encore, on va utiliser des procédés métallurgiques, pyro ou hydrométallurgiques, qui ont un point commun, c'est un très fort impact environnemental. C'est imparable. Et ça n'est qu'après qu'on va avoir ces catalyseurs, on va les utiliser pour construire les molécules dont on a besoin. Et là, troisième étape, ces procédés ont leur propre empreinte environnementale. On cumule les problèmes. L'éco-catalyse repose sur une filière qui est complètement différente, en particulier en milieu aquatique, c'est très démonstratif. La volonté de dépolluer un effluent industriel utilise donc des plantes aquatiques envahissantes, bien sûr mortes, réduites à l'état de poudre. Le système racinaire est détruit et donc la plante devenue inoffensive. En revanche, ces poudres végétales vont se comporter comme des éponges à métaux capables de les séquestrer avec une très forte efficacité. Ainsi, les bénéfices sont doubles. D'une part, on va préserver la ressource en eau d'un point de vue qualité, puisqu'on va séquestrer les éléments métalliques, mais on va être aussi amené à récolter massivement les espèces exotiques envahissantes pour réussir cette opération de dépollution, et donc préserver les milieux aquatiques de la pression exercée par les espèces aquatiques envahissantes. C'est la première étape qui a bien sûr un impact positif. L'étape suivante, bien ça va être non pas de générer un déchet, la poudre végétale gorgée de métaux n'est pas un déchet, elle est un réservoir métallique pour devenir un éco-catalyseur qui, utilisé dans des procédés très sobres, va nous permettre de revoir la chimie dans des principes de chimie verte optimisés pour construire les molécules d'intérêt. Et vous le verrez tout à l'heure avec un exemple, eh bien, le fait de passer par une plante va complètement changer la synthèse du catalyseur qui cette fois-ci va devenir recyclable. On voit ainsi donc que toute cette stratégie permet de répondre à un grand nombre d'objectifs du développement durable. Et la démarche globale qui a été entreprise donc, pour essayer d'apporter des solutions face à l'effondrement de la biodiversité nous a donc amené à étudier plein de plantes adaptées à ces milieux et finalement cette biodiversité d'espèces végétales adaptée à ces efforts écologiques a généré toute une famille d'éco-catalyseurs avec une chimiodiversité assez exceptionnelle. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi un éco-catalyseur n'est pas qu'un simple substitut au catalyseur issu de la chimie. Alors, il ne s'agit pas simplement de la première catalyse métallique biosourcée, c'est beaucoup plus que ça. On a fait le choix, initialement, de garder tout ce que la plante mettait à notre disposition, à savoir le métal M, phytoaccumulé par la plante, l'élément polluant, mais de garder aussi toutes les espèces minérales, calcium, potassium, magnésium, qui existent naturellement dans une plante, qui sont nécessaires à sa physiologie. On a fait le pari de les garder. Pari osé, puisque la chimie fonctionne à l'inverse et veut des catalyseurs de plus en plus purs, à un prix économique et écologique désastreux. On a choisi l'inverse. C'était un petit peu ambitieux au départ. Aujourd'hui, on en est content. Pourquoi ? Mais ça crée une différence énorme. J'ai essayé de vous le faire comprendre de façon schématique. Quand on concentre la partie minérale de la plante, on génère un auto-assemblage de l'ensemble de ces espèces. Et on obtient des composés qui sont complètement nouveaux, fonctionnels, et qui vont être contrôlés par deux grands paramètres. Les aspects thermodynamiques, des éléments toujours plus d'affinité entre eux que d'autres, mais pas seulement. La plante va jouer un rôle extraordinaire. On dit qu'ils sont phytocontrôlés. On le démontre facilement en montrant qu'ils ont une empreinte végétale. D'ailleurs, si artificiellement vous les mélangez, la plupart du temps, vous n'arrivez absolument pas à les générer. La plante a un contrôle sur cet auto-assemblage. C'est ce qui est magnifique. Ceux qui viennent régulièrement les mardis se souviennent peut-être de cette espèce magnifique, Crivellea messneri, qui, dans sa physiologie, tolère des concentrations importantes en manganèse. Pour s'en protéger, elle a trouvé une solution, utiliser les canaux ioniques du calcium pour transporter le manganèse, le colocaliser jusque dans ses feuilles pour le neutraliser. Il y a donc une colocalisation permanente calcium-manganèse. C'est ce qu'on retrouve dans l'éco-catalyseur. C'est exactement cette structure qui est générée. Et c'est merveilleux. Pourquoi ? C'est l'oxydant choisi par les plantes chlorophylliennes pour faire une réaction d'oxydation extrêmement dure. Oxyder l'eau en oxygène. C'est ça la bioinspiration. Et c'est donc extrêmement utile pour repenser les réactions d'oxydation qui souffrent pour la plupart de réactifs ou de catalyseurs mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie. Ils sont toxiques et écotoxiques. Donc l'éco-catalyse, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisqu'on garde toutes les espèces présentes. Excusez-moi pour cette instabilité, je vais peut-être moins bouger l'ordinateur. J'ose plus y toucher. Qui est la combinaison de différentes espèces minérales, ça veut dire la présence de plusieurs réactivités catalytiques au sein d'un seul éco-catalyseur. Ainsi, si l'on veut passer du produit A au produit C, la chimie conventionnelle qui n'a qu'une espèce métallique est obligée de faire plein de transformations successives, plein d'étapes, utiliser plein de solvants, produire plein de déchets. Ici, tout s'enchaîne in situ. C'est un avantage considérable. D'un point de vue environnemental, ça se traduit par des bénéfices évidents. En chimie, c'est ce qu'on appelle la catalyse coopérative. Et oui, la coopération est utile, même en chimie. Ceci nous a permis donc de repenser complètement la chimie durable et de revisiter l'ensemble des grands mécanismes de la chimie autrement, avec ce raisonnement qui consiste à être beaucoup plus rapide et à respecter donc les principes qui permettent de maîtriser l'empreinte environnementale de la chimie. Alors tout ceci n'est pas que du discours, ça a été calculé, et à l'aide d'indicateurs environnementaux du domaine, en particulier, si vous connaissez peut-être, les travaux décrits par le chimiste anglais James Clark, qui a fait beaucoup évoluer le domaine, qui permet vraiment d'anticiper l'empreinte environnementale des procédés en chimie. Mais nous avons voulu aller également plus loin, et développer des analyses de cycle de vie, donc la vie totale d'un produit, mais de façon interdisciplinaire, pas simplement centrée sur le produit chimique, mais sur toute la filière, ce qui change beaucoup de choses, c'est-à-dire ici de la plante jusqu'au produit final. Donc c'est un effort, parce que les outils ne sont pas très disponibles, mais qui nous permet de mieux appréhender en fait l'intérêt de la démarche en éco-catalyse. Et puis la conclusion est assez jolie, c'est que cette volonté de limiter son empreinte environnementale a eu deux bénéfices qui n'étaient pas forcément anticipés initialement. C'est la possibilité d'obtenir des labels très exigeants, comme le label Cosmos Bio, c'est-à-dire qu'on peut faire un produit de synthèse en n'utilisant aucun ingrédient pétrosourcé. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, avec ce degré de naturalité très élevé, n'est absolument pas un renoncement à la performance, contrairement aux idées reçues. Donc aujourd'hui, les applications de l'éco-catalyse sont les suivantes, de façon très schématique. Eh bien, c'est donc le développement de structures biomimétiques, c'est ce design bio-inspiré que je vous expliquais, faire des réducteurs, des oxydants qui sont inspirés des réactifs et catalyseurs naturels pour apprendre à repenser la chimie différemment. Les matières premières sont des déchets végétaux, à savoir la cellulose, l'hémicellulose, qui est un déchet par exemple de l'industrie papetière ou textile, mais pas que. Les espèces exotiques envahissantes dont on ne sait que faire, qui, je le rappelle encore, ne sont pas envahissantes par hasard, qui sont des trésors d'espèces minérales, mais aussi d'espèces organiques inhabituelles, donc qui sont les matières premières de ces procédés, et qui ont finalement permis de revisiter tous les grands mécanismes de la chimie. La catalyse acide, basique, réaction d'oxydation, de réduction, et la chimie moderne, ces fameuses réactions de couplage croisé. Ceci, aujourd'hui, débouche sur un grand programme soutenu par France 2030 et le CNRS de souveraineté sanitaire nous permettant de revisiter la production de médicaments dans deux registres, les médicaments anciens qui, vous le savez, ne sont absolument plus produits en Europe, mais plutôt en Asie, en Chine et en Inde, qui sont en train donc de produire des problèmes de pénurie, d'approvisionnement en rupture, et donc il est important de les réapatrier en Europe et en France précisément, mais on ne peut pas donc se les réapproprier selon les procédés qui tournent en Chine ou en Inde pour plusieurs raisons. D'une part, on a perdu les infrastructures, le savoir-faire, L'empreinte environnementale en Inde n'est pas tout à fait celle qui est admise en Europe. Donc on n'a aucune chance d'être compétitif si on la rapatrie en tant que telle. Il faut donc les repenser différemment. Et donc c'est dans ce registre que l'éco-catalyse peut apporter de l'innovation en repensant complètement la synthèse de ces médicaments, en combinant bénéfices écologiques et économiques. Autre problème qui se voit bien dans l'actualité quotidienne, c'est la course aux métaux stratégiques et les médicaments récents nécessitent, souvenez-vous, 30% d'entre eux, l'accès à une ressource métallique hautement stratégique, le palladium, dont le producteur principal est la Russie, souvenez-vous, donc de ce séminaire consacré à ce sujet. Il est donc fondamental d'apprendre à le recycler, ce qui est possible avec l'éco-catalyse. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que voilà, tous les mécanismes qui sont développés dans le vivant et dans des conditions extrêmes ont permis non seulement de restaurer des écosystèmes dégradés, excusez-moi, il y a un petit problème sur les diapos, mais de concevoir aussi des procédés industriels plus sobres, plus efficaces, plus respectueux de la nature, avec la volonté, pas simplement de les repenser, de les travailler au niveau du laboratoire de recherche, mais également d'accompagner ces résultats de recherche vers la sphère socio-économique le plus loin possible, c'est-à-dire d'accumuler la montée en échelle de ces procédés pour prouver leur capacité à être industrialisés de façon à ce que les grands groupes industriels se les approprient le plus vite possible. J'espère vous avoir montré qu'un autre modèle économique est possible au-delà du modèle linéaire initialement présenté, à savoir que finalement, en s'inscrivant dans une politique d'écologie à grande échelle, qu'on pourrait qualifier d'écologie industrielle, et d'économie circulaire à impact positif, il est possible de faire émerger une économie régénérative dont le point de départ est la volonté de restaurer un écosystème à l'aide de solutions naturelles qui va finalement produire de ressources qu'on n'avait pas forcément anticipées, minérales et organiques. Et si on a la volonté de transformer ces ressources par des procédés durables, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Limiter l'empreinte environnementale, donc c'est beaucoup plus satisfaisant quand on les utilise, mais aussi, s'ils sont durables, d'anticiper en amont leur recyclabilité, pas a posteriori, comme on le fait aujourd'hui, où c'est bien difficile, d'y penser au départ, ce qui change tout pour ces capacités de recyclage. Et finalement, si ces procédés sont déployés à l'échelle industrielle, la vente de ces molécules va apporter les ressources économiques nécessaires au soutien financier des efforts de restauration. Il est donc possible d'envisager la restauration du capital naturel et social à l'aide de ces démarches. Merci beaucoup pour votre écoute.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.